VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel. On est lundi 27 janvier 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, les titres. Le gouvernement malien à la recherche de plus de 15 000 enseignants volontaires, une semaine après le début d'une grève dans l'éducation. Toujours au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque contre un camp de l'armée malienne qui a fait 20 morts parmi les soldats. Le président américain Donald Trump dévoile demain son plan de paix pour le Moyen-Orient, un plan déjà rejeté par l'autorité palestinienne. L'OMS qualifie l'épidémie de coronavirus de menace élevée au niveau international. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le gouvernement du Mali a lancé une procédure de recrutement de 15 300 enseignants volontaires une semaine après le début d'une grève dans le secteur de l'éducation dont les enseignants réclament des augmentations de salaire. Ekiabado.
Il est ouvert un recrutement de 15 300 enseignants volontaires, dont 10 300 pour l'enseignement fondamental et 5 000 pour l'enseignement secondaire pour une durée de 6 mois, peut-on lire dans un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports et non du ministère de l'Éducation nationale. Les candidats qui ont jusqu'au 7 février pour déposer leur dossier, les enseignants à la retraite en 2018 et 2019 peuvent également faire acte de candidature. À l'appel de 8 syndicats, les enseignants maliens ont entamé le 21 janvier une grève qui doit s'achever le 7 février pour réclamer une augmentation de salaire 20% accordée en janvier 2019 et une seconde hausse de 9% devant entrer en vigueur en janvier 2021. Le Premier ministre Boubou Cissé, avant la grève, avait dénoncé des revendications de dernière minute alors qu'une grande partie du budget est absorbée par les besoins sécuritaires. Il avait menacé de faire appel à 15 000 enseignants au chômage si les enseignants ne retournent pas en classe dans les 2 semaines.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque meurtrière de dimanche contre un camp de l'armée malienne proche de la frontière avec la Mauritanie. Le GSIM est décrit comme la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. L'attaque du camp de Sokolo, où étaient basés des gendarmes, a fait 20 morts et 5 blessés du côté des troupes maliennes et tué 4 du côté ennemi d'après le dernier bilan gouvernemental. Nous reviendrons sur cette attaque de Sokolo dans la partie magazine. La ministre française des Armées, Florence Parly, est à Washington pour tenter de convaincre l'administration américaine à rester militairement engagée au Sahel. Mais Washington n'a pas pris d'engagement aujourd'hui. On fait le point avec Claire Morin-Jupour.
Une réduction de la présence militaire des États-Unis en Afrique limiterait gravement les efforts anti-djihadistes de la France au Sahel, a prévenu la ministre française des Armées, Florence Parly, à l'issue d'une rencontre avec le chef du Pentagone, Mark Esper. Aucune décision n'a encore été prise, a souligné le ministre américain de la Défense, rappelant que les États-Unis veulent réaligner leurs forces dans le monde pour répondre à une menace jugée grandissante de la Chine et de la Russie. Les forces militaires américaines sont un précieux soutien des troupes françaises dans la lutte contre les groupes djihadistes actifs au Burkina, au Mali et au Niger. Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a prévenu il y a 2 semaines que les États-Unis veulent réduire leur présence militaire en Afrique. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a dit espérer que les Américains seront suffisamment lucides et maintiendront leur soutien logistique dans la lutte antiterroriste au Sahel, aux côtés de la force française Barkhane.
Au Gabon, une deuxième personne est décédée après avoir été lynchée par la foule à Libreville, où la psychose s'est emparée de plusieurs quartiers provoquée par des rumeurs d'enlèvement d'enfants. Suite aux dramatiques incidents de ce vendredi à Libreville, 2 de nos compatriotes ont perdu la vie, a déclaré le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, sur son compte Facebook. Un agent de la Direction générale de la concurrence, Patrick Eyegué, fait partie des victimes. Il avait été désigné par la foule comme un kidnappeur alors qu'il venait chercher ses enfants à l'école. Un tribunal égyptien a tranché en faveur de l'interdiction du port du voile intégral par les professeurs à l'université du Caire. La haute cour administrative a rendu une décision définitive de justice maintenant l'interdiction du port du voile intégral parmi le corps enseignant décidé en 2016 en première instance. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui maître Ahmed Mahran qui défendait un collectif de 80 enseignantes ayant contesté le jugement. La célèbre blogueuse tunisienne Lina Ben Meni, à la pointe du soulèvement contre le régime de Ben Ali en 2011, est décédée ce lundi à l'âge de 36 ans des suites d'une longue maladie. Les hommages ont afflué après l'annonce du décès de cette militante des droits humains dont le nom avait circulé pour le prix Nobel de la paix après la révolution ayant chassé Zine Abidine Ben Ali du pouvoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé a corrigé son évaluation de la menace liée au virus de coronavirus, la qualifiant d'élevée à l'international et non plus de modérée. Le coronavirus a contaminé plus de 2700 personnes et fait 81 morts. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'OMS dit maintenant que le risque est élevé au plan mondial. L'agence onusienne avait écrit que le risque était très élevé en Chine et modéré au niveau international. Il s'agissait d'une erreur de formulation, a expliqué une porte-parole de l'organisation. Les autorités de Pékin ont fait état d'un premier décès dans la capitale, un homme qui s'était rendu début janvier à Wuhan, foyer de l'épidémie. Le président Donald Trump dit avoir proposé à la Chine l'aide de son pays pour contenir l'épidémie. 5 cas d'infection ont été confirmés aux États-Unis. Les États-Unis ont annoncé le départ de leur personnel diplomatique et des Américains bloqués à Wuhan. Wuhan et sa région sont placés en quarantaine depuis jeudi dernier. La Chine compte près de 2000 cas de contamination, dont 56 mortels. Le maire de Wuhan dit s'attendre à 1 000 000 de contaminations supplémentaires sur la base du nombre de patients hospitalisés qui n'ont pas encore été testés. L'épidémie a atteint l'Europe et l'Australie. Un cas présumé a été signalé au Canada.
Le président américain Donald Trump a réaffirmé aujourd'hui avoir confiance dans la réussite de son plan de paix pour le Proche-Orient en accueillant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington. Le locataire de la Maison-Blanche indique qu'il va dévoiler demain le texte. Le point avec Jacques Aristide.
Le président Trump a également espéré obtenir in fine le soutien des Palestiniens à ce projet. « Je pense qu'il a une chance d'aboutir », a-t-il dit devant la Maison-Blanche, aux côtés du dirigeant israélien. Donald Trump expose séparément aujourd'hui à Benjamin Netanyahu et à Benny Gantz, principal adversaire politique du chef du gouvernement israélien, les détails de son plan de paix pour le Proche-Orient. L'autorité palestinienne a dit, elle, ne pas avoir été invitée. Le projet d'ores et déjà rejeté par les Palestiniens. Pour le Premier ministre Mohamed Chataillé, le plan n'est qu'un moyen de détourner l'attention du procès en destitution de Donald Trump et des démêlés judiciaires du Premier ministre israélien poursuivi pour corruption alors qu'il briguera un nouveau mandat le 2 mars prochain dans le cadre du troisième scrutin législatif en moins d'un an. Le chef du gouvernement palestinien demande à la communauté internationale de ne pas en être partenaire parce qu'il est contraire, dit-il, aux principes fondamentaux du droit international et aux droits inaliénables des Palestiniens.
Voilà, et puis le président américain a déclaré qu'il n'avait pas vu le manuscrit de son ancien conseiller John Bolton, dans lequel ce dernier affirme que Donald Trump avait conditionné l'octroi d'une aide militaire à l'Ukraine à des enquêtes de Kiev sur ses rivaux politiques. Par ailleurs, les avocats donc du président qui ont repris cet après-midi leurs arguments contre la procédure de destitution au Sénat. Les rebelles yéménites Houthis se sont emparés d'un axe routier stratégique à l'est de la capitale Sanaa. Depuis le 17 janvier, les combats ont repris à l'est de Sanaa après des mois de relative accalmie. Le pays est ravagé par plus de 5 ans de guerre entre les Houthis, soutenus par l'Iran, et les forces gouvernementales appuyées depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite. Le président iranien Hassan Rouhani a mis en garde contre les menaces qui pèsent selon lui sur la démocratie en Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nani Talani pour la Minute Éco.
La dette du Congo-Brazzaville, qui affole le Fonds monétaire international, pourrait s'alourdir avec les dettes de la société d'État pétrolière SNPC envers les multinationales Total, Chevron et Eni. Cela représente plus d'un tiers supplémentaire par rapport aux estimations publiées par le FMI en juillet 2019. La Société nationale des pétroles du Congo a contracté un minimum de 2,7 milliards de dollars de dettes jusque-là confidentielles auprès de géants pétroliers, notamment Total, Chevron et Eni. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte se rapprochent de l'accord sur l'eau du Nil après la réunion des équipes techniques à Khartoum. Un accord pourrait être signé lors de la prochaine série de discussions prévue demain à Washington. Il portera entre autres sur la façon de remplir le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu sans affecter les besoins du Soudan et de l'Égypte. Pour terminer, le gouvernement de Sao Tomé et Principe a adopté une nouvelle législation qui interdit les activités de la première banque russe, baptisée Reserve Interstate Bank. Son objectif était de lever des ressources financières et d'octroyer des prêts spécialisés aux projets de développement du pays.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'enquête sur la mort du basketteur américain Kobe Bryant et 8 autres se poursuit au milieu des hommages.
Oui, le shérif du comté de Los Angeles a prévenu que l'enquête pourrait prendre du temps, tout en appelant les fans à ne pas se rendre sur les lieux du sinistre difficilement accessibles dans les collines escarpées de Calabasas. L'hélicoptère à bord duquel se trouvait Kobe Bryant s'y est écrasé alors qu'un épais brouillard enveloppait la région. Selon les premiers éléments de l'enquête relayés par les médias américains, les données de vol font état de difficultés apparues alors que l'engin survolait le zoo de Los Angeles. Le pilote aurait alors été averti qu'il volait trop bas. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère a, semble-t-il, heurté une colline haute d'environ 520 mètres avant de prendre feu. Autorités experts semblent pour l'heure privilégier la piste météorologique plutôt que d'éventuels problèmes mécaniques. Que retiennent les Africains de Kobe Bryant, suivant quelques réactions depuis Cotonou au Bénin?
Kobe Bryant a été un grand athlète. C'est tout simplement et une légende du basketball mondial qui vient de tirer sa révérence. Et je pense que c'est toute la famille du sport qui est éplorée et parce que Kobe a marqué son temps. Kobe a été l'un des grands basketteurs de ce monde. Et nous ne pouvons que lui rendre hommage et avoir une pensée pieuse pour sa femme Vanessa et pour le reste de la famille.
La génération avant nous a vu les exploits de Michael Jordan. Ben nous, la première vraie star de NBA qu'on a connue, c'était Kobe Bryant, quand la NBA est arrivée vraiment sur les écrans de télé en Afrique. Voilà, qu'est-ce qu'on retient de ce monsieur? Ses stats sont là et parlent pour lui. 81 points sur un match, il a tout gagné en tant que joueur. Tout ce qu'un joueur de basket peut gagner, eh bien Kobe Bryant l'a gagné.
5 fois vainqueur de la NBA avec les Los Angeles Lakers, le seul club de sa carrière professionnelle, Kobe Bryant, père de 4 enfants, était à bord de l'hélicoptère avec 8 autres personnes, dont sa fille de 13 ans, Gianna. Aucune personne n'a survécu au crash. Âgé de 41 ans, Kobe Bryant a été médaillé d'or en 2008 et 2012 aux JO avec les États-Unis. Il avait disputé son dernier match en avril 2016, après les hommages de Donald Trump et de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama. Du monde du sport et de millions d'anonymes, David Beckham a réagi. Il m'a fallu 2 heures pour trouver quoi écrire, à partager l'ancien footballeur anglais.
Football avec la 5e journée de la Ligue africaine des champions disputée ce week-end.
Oui, on connaît 4 nouvelles équipes qualifiées pour les quarts de finale. Parmi elles, le Zamalek du Caire, le club égyptien, a été accroché 0-0 par le leader du groupe A, le tout-puissant Mazembe, mais a profité du match nul entre Primeiro de Agosto et Zesco United pour valider son ticket. Ça passe aussi pour le Wydad de Casablanca, le finaliste malheureux de l'année passée et qui s'est imposé 3-1 devant l'USM Alger. L'autre club marocain, le Raja de Casablanca, Blanca et l'Espérance de Tunis ont aussi validé leur billet suite à la victoire 4-1 de l'AS Vita Club de Kinshasa face aux Algériens de la JS Kabylie.
5e journée également en Coupe CAF.
Avec de nouveaux qualifiés pour les quarts de finale, dont le finaliste de l'année dernière, la Renaissance sportive de Berkane dans le groupe B, n'a pas fait de cadeau au débutant béninois Desaïe FC battu 5-1. Avec 10 points, les Marocains ne peuvent plus être rejoints par le DC Motoma Pembe. battu 2-1 de son côté par les Zambiens de Zanaco. Ça passe aussi pour les Guinéens du Oroya dans le groupe C après leur victoire 2-1 face aux Sud-Africains de Bidvest, tout comme pour les Égyptiens d'Almasri qui ont fait l'essentiel devant les Mauritaniens du FC Nouadhibou.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. Au Mali, hier, plusieurs dizaines d'hommes lourdement armés ont attaqué le camp de la gendarmerie de Sokolo, près de la frontière avec la Mauritanie, non loin de la forêt de Ouagadou, repère de djihadistes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué cette attaque qui a tué 20 soldats maliens, blessé 10 et emporté du matériel militaire. Modibo Dembélé a joint Dramane Simbara, maire de la commune rurale de Sokolo.
Bon, ce qui s'est passé exactement à Sokolo, c'est que hier, aux environs de 5h45, le détachement de la gendarmerie situé à l'ouest de Sokolo a subi une attaque des djihadistes. Les combats ont commencé depuis 6h, pour se terminer 1h30 après.
En termes de bilan, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de cette horrible attaque à Sokolo?
Bon, en termes de bilan, au niveau de nos forces armées, on a perdu 20 soldats, 3 graves et 7 blessés légers. 10 blessés. 20 morts, 10 blessés.
Nous avons appris également que les assaillants ont emporté du matériel militaire. Est-ce que ces allégations sont exactes?
Oui, tout à fait, ça je confirme. Parce que quand ils sont venus, justement, les allégations, le nombre était très élevé, les militaires n'ont pas pu tenir. Donc ils sont rentrés dans la base, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et ils ont brûlé les restes.
Comme vous avez effectué une visite de terrain sur la base militaire qui vient d'être attaquée, selon vos constats et vos investigations, le renfort est-il arrivé à temps?
Bon, ça c'est le domaine militaire, je ne saurais vous répondre par rapport à cette question. Je sais quand même que les renforts sont arrivés. Maintenant, ils sont arrivés tard, pourquoi ils ne sont pas arrivés là, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Quand les renforts arrivent, les versants étaient déjà partis. Parce que le combat n'a pas duré. Les renforts, ils ont mis une heure avant d'arriver, une heure de temps. Pour qui c'est la position de nos renforts et puis l'état de route, on ne peut pas dire que les renforts sont arrivés en retard.
Quelle est l'atmosphère actuellement dans la commune rurale de Sokolo?
Bon, à Sokolo, vraiment, c'est le calme. Après, vraiment, l'indignation, on n'a pas du tout compris l'acte, parce que ça ne s'explique nullement. Après, l'indignation et la révolte, les gens, on a fait des sensibilisations pour amener les gens à la raison. Et c'est le calme à Sokolo. Avec le renfort qui est arrivé à nos côtés, comme nous l'assurons.
Yeah, côté assaillant, est-ce que vous avez une idée sur le bilan?
Il n'y a pas de situation par rapport à ça parce que en partant, ils ont enlevé leur corps. Ils ont juste le faire.
Et aucune information sur l'identité des assaillants? Aucune trace?
Aucune trace pour le moment, à ma connaissance.
Est-ce que les assaillants se sont attaqués aux populations locales?
Non, heureusement pour nous, ils n'ont pas touché la population civile. Aucun civil n'a été touché.
Dramane Simbara, maire de la commune rurale de Sokolo.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Le Bénin est connu pour la pratique du vaudou et autres religions traditionnelles. Généralement, ce sont les hommes qui sont devant, mais on y retrouve aussi des femmes. Quelle est la réalité de ces femmes dans les rites vaudou au Bénin? Élément de réponse avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Elles occupent rarement le devant de la scène, mais elles possèdent dans l'ombre le secret de bien de rituels. Pour on sait que le cas, même si l'homme semble prendre le devant de tout dans le monde vaudou, la femme incarne la force spirituelle de tout ce qui se fait, même en ce qui concerne les divinités inaccessibles aux femmes comme les revenants.
La femme tient une place de choix dans le monde vaudou. Elle est la lumière, elle est l'esprit du monde vaudou. Tout passe par elle. Vous savez, les femmes sont bavardes, pas du tout discrètes. C'est cela qui fait que dans nos couvents, les hautes fonctions lui sont interdites, mais elle les a, sans qu'on le leur attribue officiellement. Il n'y a pas de rituel qui puisse réussir sans l'intervention de la femme, mais cela lui est présenté sous forme d'obligation et non comme un pouvoir. C'est de cette façon que nous arrivons à protéger notre héritage ancestral.
Dans la discrétion de sa visite à ses parents, Nalilé est revenue sur le jour où elle a été donnée à la divinité Sapata, encore appelée Dieu de la Terre. Elle raconte comment a démarré cette aventure et la place qu'elle occupe actuellement.
Je suis adepte du Dieu de la Terre depuis mon enfance. C'est à 4 ans que je suis rentrée de force au couvent et aujourd'hui, à 35 ans, je suis l'une des responsables. La majorité des cérémonies de libation, de rituels sacrés doivent passer par moi. Au début, cela a été difficile pour moi, mais aujourd'hui, quand je fais le point de tout ce que j'ai pu récolter comme bienfait, je me dis que j'ai été chanceuse.
Si certaines sont parvenues à s'adapter, ce n'est pas le cas d'autres qui y sont malgré elles et par respect pour une croyance qu'elles sont obligées de porter jusqu'à leur dernier souffle. Marinou raconte son histoire.
Je n'ai pas choisi cette vie et même après tant d'années d'initiation, je ne suis pas encore arrivée à l'accepter. Mais je suis dedans et la vie continue. Mais c'est dur.
Contrairement aux deux premières qui ne savent ni lire ni écrire, Martine de Souza est différente. Elle est linguiste de formation, interprète, documentaliste, réalisatrice de films et reste une adepte de la sirène des eaux et de la divinité trompe.
Une femme de vaudou est traitée avec mépris parce qu'on nous prend pour des sorcières. Mes ancêtres m'ont appelée, les divinités m'ont appelée et je ne pouvais pas résister. Je suis partie.
Selon certains devanciers, les femmes resteront des têtes de pont dans le milieu traditionnel vaudou, de l'éducation en passant par l'initiation aux réalités du monde jusqu'à l'apprentissage de la langue des adeptes. Les femmes dans les couvents restent incontournables. De Cotonou, Ginette Luadandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les avocats du président Donald Trump reprennent leur défense ce lundi au Sénat sur fond d'allégations attribuées à l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Les experts s'attendent à ce que les sénateurs votent sur l'opportunité ou non d'autoriser les témoins et des documents jusqu'ici gardés secrets par la Maison-Blanche. Le point avec Lionel Gaïma.
Le New York Times rapporte des allégations figurant dans le prochain livre de John Bolton, selon lesquelles le président Trump lui aurait affirmé que l'aide militaire à l'Ukraine était conditionnée. Un avocat de Bolton a dit que le manuscrit a été envoyé au Conseil de sécurité nationale il y a un mois pour des révisions concernant d'éventuelles informations classées secrètes. Ce matin, le président Trump a rejeté la version rapportée par Bolton. Sur Twitter, il a écrit « Je n'ai jamais dit à John Bolton que l'aide à l'Ukraine était liée à des enquêtes sur les démocrates, y compris les Biden ». Trump a déclaré, en fait, il ne s'est jamais plaint au moment de son licenciement très public. Si John Bolton l'a dit, ce n'était que pour vendre un livre. Les procureurs démocrates ont publié une déclaration renouvelant leurs appels à ce que Bolton soit appelé à témoigner, affirmant qu'il avait des informations vitales à fournir. Ils ont noté que le président avait bloqué leur demande de témoignage de M. Bolton lors de l'enquête parlementaire. Maintenant, nous voyons pourquoi, ont-ils souligné. Bolton a quitté son poste en septembre et a déclaré ce mois-ci qu'il était prêt à témoigner si le Sénat le citait à comparaître. Jesse Colo, avocat du président Trump.
Ne pas être d'accord avec la décision du président sur des questions de politique étrangère ou qu'il lui donne des conseils n'est en aucun cas une infraction susceptible de destitution.
C'est la troisième mise en accusation d'un président américain, mais à ce jour, le Sénat n'a jamais destitué un chef de l'exécutif. Pat Cipollone, avocat de la Maison-Blanche.
Ils vous demandent de faire quelque chose qu'aucun Sénat n'avait jamais fait. Et ils vous demandent de le faire sans aucune preuve.
Les démocrates disent que l'instruction du président de défier les assignations à comparaître et les demandes de documentation entravent leur enquête. Jason Crow, représentant démocrate.
La question est de savoir s'il est acceptable que le président bloque l'aide financière à notre allié, notre ami en guerre, pour un profit politique personnel. S'il est acceptable que le président sacrifie notre sécurité nationale pour sa propre réélection.
Les démocrates demandent au Sénat sous contrôle républicain de citer à comparaître des témoins ayant une connaissance directe de l'appel téléphonique. Mais certains sénateurs républicains soutiennent que ce n'est pas leur travail. James Lankford, sénateur républicain.
On dirait qu'ils demandent au Sénat de se faire conseiller spécial pour aller chercher les preuves. Ce n'est pas vraiment le travail du Sénat. La tâche du Sénat est de tenir le procès. La Chambre est celle qui réunit les informations pour la mise en accusation. Nous agissons donc sur ce que les représentants nous envoient.
Pour les démocrates, c'est l'administration Trump qui a rendu impossible toute collecte d'informations. Amy Klobuchar, candidate à la présidence démocrate.
Ce que nous demandons, c'est 4 témoins. 0 témoin plus 0 preuve équivaut à 0 justice. Vous ne pouvez pas avoir de procès sans témoins.
Le président qui a qualifié plusieurs fois sa mise en accusation de canular dit maintenant qu'il est en faveur des témoins, mais pas John Bolton, son ancien conseiller de la sécurité nationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et un Grammy de plus pour la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Hier soir à Los Angeles, elle a remporté le Grammy du meilleur album de musique du monde pour son disque Celia. La jeune chanteuse Billie Eilish et sa pop iconoclaste ont réussi le grand chelem en raflant les prix dans les 4 catégories reines d'une cérémonie dédiée au basketteur Kobe Bryant, décédé hier. Salwa Jaffery.
It's so hard to say goodbye.
À nos revoir poignant, la maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia Keys, a rendu hommage à la légende du basket avec une interprétation de It's so hard to say goodbye. C'est tellement dur de dire au revoir.
We love you, Kobe.
Mais le show doit continuer. The show must go on. Avec tout d'abord l'exubérante rappeuse Lizzo, meilleure performance pop solo avec Truth Hurts et meilleur album de musique urbaine contemporaine. La grande gagnante de cette cérémonie, c'est elle, Billie Eilish. À seulement 18 ans, l'adolescente a été sacrée révélation de l'année et album de l'année, tandis que son titre Bad Guy a reçu à la fois le prix de la meilleure chanson et du meilleur enregistrement lors de cette 62e édition. Eilish est devenue la plus jeune artiste à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition.
Je crois que les fans méritent tout. Je crois qu'on n'en a pas assez parlé ce soir. Ils sont la seule raison qu'on est tous là. Merci à tous les fans.
Donné ultra favori pour l'enregistrement de l'année, le jeune rappeur Lil Nas X a dû se contenter d'une statuette pour le clip vidéo pour son tube Old Town Road et pour le meilleur duo pop avec Billy Ray Cyrus. Ariana Grande en lice dans 5 catégories et repartit bredouille. Meilleur album rap Tyler, The Creator avec Igor. Meilleur album de rock Cage the Elephant avec Social Cues. Et enfin, le meilleur album de musique du monde, Angélique Kidjo pour Celia. Une victoire qu'elle a dédiée au jeune chanteur nigérian Burna Boy, donné favori avec le succès de son album African Giant.
This is for Burna Boy.
Burna Boy fait partie de ces jeunes artistes qui chantent la manière dont notre continent est perçu. La musique africaine est la base de toutes les musiques.
C'est le 4e Grammy pour Angélique Kidjo qui n'a pas manqué de s'amuser en salle de presse avec son trophée. Une victoire pour la musique africaine et pour ses fans de plus en plus nombreux.
Fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma, console Wojtek Zorniak, la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.